Chapitre 7. Pauvre et riche. Pendant la dernière partie de la conversation rapportée plus haut, Fabius avait paru distrait et absorbé. Il songeait à sa conversation précédente avec Agnès. Avec quel soin elle avait gardé son secret. Quel était le patricien privilégié qui avait su déjà se rendre maître de son cœur. Il songeait aux nombreux seigneurs romains qui eussent été fiers d'une telle conquête, mais son esprit indécis n'osait en désigner un. Et ces joyaux si précieux, qui avait pu les offrir à la jeune fille? Il ne connaissait pas une famille, si riche qu'elle fût, qui en possédât de semblables, et si un opulent étranger était allé faire de telles acquisitions chez un des marchands de la ville, Fabius, qui chaque jour hantait les promenades et les lieux de réunion des gens du monde, en aurait eu connaissance. Soudain, une idée jaillit de son esprit. Le jeune Fulvius, qui étalait dans sa toilette tant de pierreries, ne serait-il pas l'heureux mortel qui avait su plaire à Agnès? Il semblait à Fabius que pendant le repas, les regards de l'étranger s'attachaient avec une singulière fixité sur la jeune fille. Sûrement, il la trouvait charmante. Elle n'avait pas paru s'apercevoir de l'attention dont elle était l'objet, mais c'était sans doute afin de cacher jusqu'au bout son secret. Arrivé à cette conclusion, le bon Fabius fit des vœux pour le bonheur de sa jeune parente et se prépara à surprendre Fabiola par son étonnante perspicacité. Mais nous allons quitter le noble patricien pour assister à une plus humble scène et retrouver Syra au moment où elle sortit de l'appartement de sa jeune maîtresse. Quand elle alla présenter son bras sanglant aux soins de Frosine, la nourrice de Fabiola ne put retenir une exclamation de pitié. Mais se doutant sur-le-champ que le coup avait été dirigé par la main de la jeune fille qu'elle aimait, elle fut bientôt partagée entre deux sentiments contraires. « Pauvre fille !» dit-elle comme elle allait et venait en lavant la blessure. « Quel affreux coup! Qu'avez-vous donc fait pour le mériter? Combien vous devez souffrir, pauvre créature! Mais que vous avez dû vous montrer méchante pour attirer ce châtiment? C'est une blessure cruelle et pourtant c'est la plus douce des mains qui l'a faite. J'ai peur que la perte de votre sang ne vous fasse évanouir. Prenez ce cordial pour vous remettre. Sans doute votre jeune maîtresse s'est vue forcée de vous frapper ainsi. » Sans doute, dit Syra en souriant, c'était ma faute. Qu'avais-je besoin de discuter avec ma maîtresse? Discuter avec elle? Ô Dieu puissant, qui a jamais entendu parler d'une esclave discutant avec une telle maîtresse, si instruite que le savant Calpurnius lui-même est effrayé d'avoir à affronter une discussion avec elle. Je ne m'étonne plus de ce qui est arrivé. Elle était si énervée qu'elle n'avait pas conscience du mal qu'elle vous faisait. Mais tout cela doit être caché, il ne faut pas faire supposer que vous vous êtes mise à ce point dans votre tort. N'avez-vous pas un morceau de riche étoffe ou un voile brodé que je pourrais rouler autour de votre bras en guise d'ornement? Les autres esclaves ont de nombreuses écharpes brodées données par leur maîtresse ou achetées par elle, mais vous ne paraissez pas attacher beaucoup de prix à ces jolis riens. Allons toujours voir si nous en trouverons une. Euphrosyne se rendit alors dans le dortoir des esclaves et ouvrit la capsa, ou boîte, de Syra, examina minutieusement son contenu et tira enfin du fond du coffret un morceau de soie carrée, richement brodé et orné de perles. Syra rougit vivement en refusant de porter cette écharpe dont la magnificence contrastait avec la simplicité de sa mise. C'était en outre un souvenir de jours meilleurs, souvenir qu'elle avait précieusement gardé. Mais Euphrosyne, qui désirait cacher la faute de sa jeune maîtresse, fut inexorable et la riche écharpe fut gracieusement enroulée autour du bras blessé. Cette opération terminée, Syra se rendit dans le petit parloir qui faisait le pendant du logement du portier et dans lequel les esclaves privilégiés pouvaient recevoir leurs amis. Elle portait dans sa main un panier soigneusement recouvert d'un linge. Au moment où elle ouvrait la porte, un pas léger se fit entendre, quelqu'un venait à sa rencontre. C'était une jeune fille de 16 ou 17 ans, pauvrement mais proprement vêtue, qui passa ses bras autour du cou de Syra avec tant de grâce et une telle expression de bonheur qu'un spectateur aurait eu peine à deviner que ses yeux privés de la vue n'avaient jamais été en contact avec le monde extérieur. Asseyez-vous, chère Cécilia, dit Syrah du ton le plus affectueux, en conduisant la jeune fille vers un siège. Je vous apporte aujourd'hui un vrai régal et vous allez souper somptueusement. Comment cela ? Est-ce que je ne soupe pas toujours bien grâce à vous ? Oh non ! Mais aujourd'hui, ma maîtresse a eu la bonté de m'envoyer un plat de sa table et je l'ai apporté pour vous. C'est très bon à elle, mais c'est encore meilleur de votre part, ma sœur. Pourquoi ne l'avez-vous pas gardé ? Il vous était destiné et n'avait pas été donné pour moi. Pourquoi ? À dire vrai, c'est que je suis plus heureuse de vous faire jouir de quelque chose que d'en jouir moi-même. Vous avez tort, chère Syrah, cela ne doit pas être. Dieu m'a faite pauvre, il veut que j'accomplisse sa volonté. Je ne dois pas plus partager la nourriture des riches que je ne voudrais porter leurs splendides vêtements quand je puis avoir la nourriture et le vêtement des pauvres. J'aime à partager votre pulmentum. Je sais qu'il m'est donné en esprit de charité par quelqu'un de pauvre comme moi. Je vous procure ainsi le mérite de la charité et vous me donnez la consolation de penser que je ne suis devant Dieu qu'une pauvre enfant aveugle. Je crois qu'il m'aime mieux ainsi, accomplissant sa volonté, que recherchant la table délicate des heureux de ce monde. Je préfère rester à la porte avec Lazare que de partager le repas du mauvais riche. Vous êtes meilleur et plus sage que moi, cher enfant. Il sera fait comme vous le désirez. Je donnerai le mets exquis à mes compagnes et vous apporterai votre humble nourriture de chaque jour. Merci, chère sœur, j'attendrai votre retour. Syrah entra dans l'appartement des esclaves, posa le plat d'argent devant ses compagnes, dont la gourmandise et la jalousie étaient vivement surexcitées. Comme leur maîtresse avait quelquefois pour elle des attentions de la même sorte, elles ne se montrèrent pas surprises. Mais la pauvre servante ne voulut pas paraître devant elle avec la riche écharpe nouée autour de son bras. Elle l'ôta avant d'entrer et, en sortant, la replaça d'une seule main, comme elle put, pour ne pas déplaire à Euphrosyne. Elle était dans la cour, retournant vers son ami aveugle, quand elle vit un des hôtes de sa noble maîtresse, qui, l'air irrité, se dirigeait vers la porte. Elle s'arrêta alors derrière une colonne pour éviter d'être rudoyée. C'était Fulvius. À peine Syrah l'eut-elle aperçu qu'elle demeura comme clouée sur la terre. Son cœur battait à se rompre et frémissait comme s'il allait cesser d'animer son être. Ses genoux s'entrechoquaient en tremblant, un frisson courait dans ses membres, une sueur froide perlait à ses tempes. Ses yeux, démesurément ouverts, semblaient fascinés comme ceux de l'oiseau quand paraît un reptile. Elle porta la main à sa poitrine, y traça en chancelant le signe de vie, et le charme sembla brisé. Elle s'enfuit en un instant sans avoir été vue. La portière venait de retomber sur elle quand Fulvius atteignit la place où elle avait frémi. Il recula d'un pas et sembla comme épouvanté de ce qu'il voyait devant lui. Il tremblait violemment, mais dominant bientôt sa terreur, il jeta un regard rapide autour de lui et vit qu'il était seul. Personne ne pouvait l'apercevoir, excepté celui qui voit tout et qui lisait dans son cœur coupable. Fulvius considéra alors l'objet qu'il avait glacé d'épouvante, se baissa pour le ramasser, mais sa main tremblante ne pouvait parvenir à le saisir. Entendant à la fin des pas sonores qui faisaient résonner les dalles, il reconnut la marche de Sébastien et le jeune homme, se baissant une dernière fois, par un effort désespéré, ramassa la riche écharpe qui avait glissé du bras de Syrah. Il tressaillit en la pliant, quand tout à coup son horreur redoubla en voyant sur l'écharpe des traces du sang encore humide qui avait traversé le bandage d'Euphrosyne. Il chancela comme un homme ivre, et, se tournant vers la porte, il reprit le chemin de sa maison. Pâle et haletant, il entra dans son appartement, repoussa avec rudesse les services accoutumés de ses esclaves, et, suivi du serviteur étranger dont nous avons parlé, il ferma avec soin la porte de sa chambre. Une lampe répandait sa clarté sur une table placée au milieu de l'appartement. Fulvius tira lentement l'écharpe brodée et montra en silence les traces de sang. L'homme au teint sombre ne disait rien, mais sa figure basanée blanchissait, tandis que son jeune maître devenait livide. « C'est la même écharpe, sans doute, » dit-il à la fin en parlant une langue étrangère. « Mais elle est certainement morte. »« En êtes-vous sûr, Rotas ? demanda le maître en dirigeant vers le serviteur son œil d'oiseau de proie. Aussi sûr qu'un homme peut l'être d'un fait qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Où avez-vous trouvé cela et d'où vient ce sang ? Je vous dirai tout demain. Je suis trop souffrant ce soir. Quant à ces traces de sang qui étaient humides quand j'ai trouvé l'écharpe, je ne sais pas d'où elles viennent, à moins qu'elles ne soient un signe de vengeance, vengeance profonde, comme les furies seules peuvent en inventer. Ce sang ne vient pas d'être versé. Allons, ce n'est pas le temps des songes ou des visions. Quelqu'un vous a-t-il vu ramasser cette écharpe ? Non, j'étais seul, j'en suis sûr. Alors nous sommes sauvés. Il vaut mieux que cet objet soit tombé dans nos mains que dans d'autres. Une bonne nuit vous apportera un conseil salutaire. C'est vrai, Eurotas, mais vous coucherez cette nuit dans ma chambre. Ils allèrent chacun prendre du repos, Fulvius sur un lit superbe, Eurotas sur une couche basse. Là, appuyé sur son coude, de son œil ardent et sombre, il contempla longtemps, à la lueur vacillante de la lampe, le sommeil pesant du jeune homme, dont il était à la fois le gardien fidèle et le mauvais génie. Fulvius semblait agité. Il gémissait dans son sommeil, et ses songes paraissaient sombres et tristes. Il vit d'abord s'élever devant lui une belle ville sur une terre lointaine, qu'arrosait d'une rivière limpide comme un jet de cristal. Sur les eaux transparentes vogue une galère. Une personne est sur le pont, agitant vers lui, en signe d'adieu, l'écharpe richement brodée. La scène change. Le vaisseau est au milieu de la mer, battu par une tempête furieuse. Mais, au sommet du mât, la même écharpe flotte encore, au gré de la brise et du vent qui s'engouffre dans ses replis soyeux. Le tableau se modifie encore une fois. Le vaisseau est allé se briser contre des rochers, et après un dernier gémissement, profond comme le cri de l'agonie, tous les passagers sont ensevelis dans le gouffre sans fond. Mais le grand mât domine encore les vagues avec son brillant et radieux étendard, jusqu'à ce que, au milieu des oiseaux de mer, dont les cris s'élèvent dans les airs, apparaisse un fantôme aux ailes sombres déployées, à l'œil sévère, qui, une torche à la main, atteint le sommet du vaisseau englouti et, arrachant l'étendard, vient le déployer devant les yeux terrifiés de Fulvius, qui lit en lettres de feu « Némésis », c'est-à-dire « Vengeance ». Il est temps de revenir à nos connaissances de la maison de Fabius. Quand Cyra eut entendu la porte d'entrée se fermer sur Fulvius, elle s'arrêta un instant pour prendre un peu de force en priant Dieu, puis retourna près de son amie aveugle. La pauvre fille avait terminé son frugal repas et attendait patiemment le retour de l'esclave. Cyra commença à lui prodiguer les services qu'elle lui rendait chaque jour. Elle apporta de l'eau et lava les mains et les pieds de l'aveugle afin d'obéir aux préceptes du Christ, puis tressa avec soin ses cheveux comme si la pauvre créature eût été son enfant. Quoique Cyra ne fût pas de beaucoup la plus âgée, son regard était si tendre tandis qu'elle aidait sa jeune amie, sa voix semblait si douce qu'on aurait plutôt cru voir une mère rendant ses soins à une fille bien-aimée qu'une esclave servant une mendiante. Et cette mendiante paraissait si heureuse, parlait avec tant de cœur et disait des choses si élevées que Cyra suspendait sa tâche pour l'écouter et la regarder. À ce moment, Agnès entrait pour avoir avec Cyra l'entretien demandé. Fabiola, qui avait insisté pour suivre sa parente, l'accompagnait. Mais quand la douce main d'Agnès souleva le rideau de pourpre et que la jeune fille contempla la scène qui se présentait à sa vue, elle la montra d'un geste à Fabiola en lui demandant de garder le silence. La fille aveugle était tournée du côté opposé aux visiteuses et sa servante volontaire, agenouillée devant elle, ne se doutait pas de la présence des deux jeunes filles. Le cœur de Fabiola était ému. Elle n'imaginait pas qu'un lien si pur et si désintéressé put exister sur la terre entre des étrangers. Ce lien, c'était la charité, et ce mot et cette vertu étaient inconnus à Rome ou en Grèce. Une larme brillait dans les yeux de Fabiola. Elle s'éloigna doucement et dit à Agnès « Je vais me retirer. Cette fille m'a prouvé tantôt qu'une esclave pouvait avoir une intelligence. Elle vient de me montrer qu'elle avait un cœur. J'étais étonné, il y a quelques heures, que vous me demandiez si je n'aimais pas mon esclave. Je pense maintenant que je pourrais aimer Cyra. J'ai presque regret de notre arrangement de tantôt qui me l'enlèvera. » Fabiola rentra dans la cour, tandis qu'Agnès, pénétrant dans la petite salle, dit en souriant « Enfin, Cécilia, j'ai découvert votre secret. Voilà donc cette amie dont la nourriture est, disiez-vous, bien meilleure que la mienne, puisque vous ne vouliez jamais manger à la maison. Si le dîner n'est pas meilleur, je conviens au moins que l'hôtesse qui vous le donne vaut mieux que moi. » « Oh, ne dites pas cela, noble Agnès, reprit la fille aveugle. C'est le dîner qui est vraiment meilleur. Vous avez beaucoup d'occasions pour exercer votre charité, mais une pauvre esclave peut seulement l'exercer quand elle trouve une personne délaissée comme moi et encore plus pauvre qu'elle. Cette pensée rend la nourriture qu'elle m'apporte de beaucoup la plus douce. » « Vous avez raison, dit Agnès, et je suis contente que vous soyez présente à l'agréable nouvelle que j'apporte à Syrah. Elle vous rendra heureuse, j'en suis sûre. Fabiola m'a permis de devenir votre maîtresse, Syrah, et de vous prendre avec moi. Demain, vous serez libre et vous deviendrez pour moi une sœur. » Cécilia frappa dans ses deux mains en signe de joie. Puis, passant ses bras autour du cou de Syrah, elle s'écria « Oh, quelle bonne nouvelle ! Que vous serez heureuse, chère Syrah !» Mais Syrah, émue et troublée, répliqua d'une voix tremblante. « Oh, douce et charmante jeune fille, vous êtes trop bonne de penser à m'avoir près de vous. Pardonnez-moi si je vous demande de rester ici. Je vous assure, chère Cécilia, que je me trouve très heureuse. » « Pourquoi donc désirez-vous rester ? » demanda Agnès. « Parce qu'il est plus parfait d'obéir aux ordres de Dieu et de rester dans la position où sa volonté nous a placés. Je ne dis pas que je suis dans l'état où ma naissance m'appelait, j'y étais amenée par d'autres. » Un flot de larmes l'interrompit un moment, mais elle reprit. « Il est clair pour moi que Dieu veut que je le serve dans cette humble condition. Je ne puis désirer la quitter. » « Alors, dit vivement Agnès, je puis vous satisfaire. Je ne vous affranchirai pas. Vous serez mon esclave favorite. Ainsi, votre position ne sera pas changée. » « Non, dit Syrah en souriant, cela ne peut être. Vous connaissez les instructions que le grand apôtre nous a laissées. « Serviteurs, soyez soumis par la crainte à vos maîtres. Obéissez non seulement aux maîtres bons et charitables, mais aux maîtres fâcheux eux-mêmes. Je ne veux pas dire que ma maîtresse puisse être placée parmi ces derniers. Mais vous, noble Agnès, vous êtes trop bonne pour moi. Où serait ma crainte si je vivais avec vous? Vous ne savez pas combien je suis orgueilleuse et entêtée. Je craindrais pour mon salut si ma vie était exempte de peines et d'humiliations. » Agnès se sentait à demi vaincue, mais elle désirait plus vivement encore posséder un tel trésor de vertu, et elle dit « Je vois, Syrah, qu'un motif d'intérêt personnel ne peut vous émouvoir. Je vais vous en présenter un qui est plus égoïste. J'ai besoin de vous afin de m'éclairer de vos avis et de m'animer par votre exemple. Vous ne pouvez refuser ma prière. » « Un motif d'égoïsme ? » répliqua l'esclave. « Vous ne connaissez ce sentiment que de nom. Mais c'est à vous-même que je vais en appeler contre votre requête. Vous connaissez Fabiola, vous l'aimez. Quel noble esprit, quelle belle intelligence elle possède. De quelle grande qualité elle serait capable si la lumière de la vérité répandait sur elle un de ses rayons. Avec quel soin scrupuleux elle garde en elle les vertus que nous estimons. Quelle grande chrétienne elle ferait. » « Continuez au nom de Dieu, chère Syrah, » interrompit Agnès. « Avez-vous quelque espoir pour Fabiola ?»« Jour et nuit, j'offre à Dieu mes prières pour obtenir cette grâce. C'est mon unique pensée, mon rêve le plus cher. J'essaierai de la gagner par ma patience, mon assiduité, même par quelques discussions comme celle d'aujourd'hui. Et quand j'aurai tout épuisé, une ressource me restera encore. » « Laquelle ?» demandèrent ensemble les deux jeunes filles. « Je donnerai ma vie pour sa conversion. Je sais qu'une misérable esclave comme moi a peu de chances d'obtenir le martyr. Mais on dit qu'une violente persécution est résolue et que les plus humbles victimes ne seront pas dédaignées. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ma vie est entre ses mains pour acheter l'âme de Fabiola. Vous qui êtes la meilleure de ses amies, s'écria Syrah, se laissant tomber à genoux et baignant de ses larmes les mains d'Agnès. « Ne vous placez pas entre ma conquête et moi. » Vous avez triomphé, Syrah, ma sœur. Ne me donnez plus jamais un autre nom, dit Agnès. Restez à votre poste. Un cœur si généreux, une vertu si sublime, doit triompher de tous les obstacles. Je ne vous propose plus de quitter la Lise, où vous devez remporter cette belle victoire et de descendre dans l'humble sphère de ma maison. Et moi, reprit Cécilia, avec une expression pleine de finesse et de gravité, je vais vous raconter que Syrah m'a dit une très méchante chose et qu'elle a même altéré la vérité. Comment cela, ma très chère ? Dit Syrah en souriant. Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure que j'étais meilleure et plus sage que vous, parce que je refusais de manger un mets délicat qui aurait flatté mon palais quelques instants au prix d'un acte de gourmandise, tandis que vous abandonnez le bonheur, le libre exercice de votre religion, que vous faites le sacrifice de votre vie même pour le salut d'une personne qui, ici-bas, est votre tyran. Comment avez-vous pu me dire une telle chose ? À ce moment, un serviteur vint annoncer que la litière d'Agnès attendait à la porte. Si un spectateur avait pu voir l'affectueux adieu qu'échangèrent la noble jeune fille, l'humble esclave et la pauvre mendiante, il aurait pu s'écrier, comme le peuple l'avait déjà fait auparavant, « Voyez comme les chrétiens s'aiment entre eux !»